Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 9 octobre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie. Et d'abord, les titres du journal. De ce jeudi, le président américain a annoncé qu'Israël et le Hamas ont approuvé la première phase de son plan de paix. En France, le premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, a mené des pourparlers pour sortir le pays de l'impasse politique, pourparlers fixés par le président Emmanuel Macron. Et à l'issue des négociations, il a déclaré que la situation permet au président de nommer un premier ministre dans les heures qui viennent. En Australie, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi 000, présenté suite à deux pannes critiques d'Optus en septembre, dont l'une a causé 4 décès. L'objectif est de créer un gardien permanent, 000 custodian, pour surveiller et réagir en temps réel aux pannes, d'imposer des obligations de rapport plus strictes aux fournisseurs de télécommunications et de renforcer la confiance du public dans le numéro d'urgence national. Et on passe au journal de ce jeudi avec l'annonce que le président américain qui déclare qu'Israël et le Hamas ont approuvé la première phase de son plan de paix. Précision de Jérôme Bastion pour Radio France Internationale.
Le Hamas et Israël ont tous deux accepté dans la nuit de mercredi à jeudi la première phase du plan Trump pour l'arrêt des hostilités à Gaza, une phase qui prévoit des échanges de prisonniers et d'otages, ainsi qu'un meilleur accès de l'aide humanitaire dans le territoire dévasté par 2 ans de guerre, ainsi que l'arrêt des hostilités avec un retrait de la présence militaire israélienne. Le président américain qui a le premier annoncé l'accord sur son réseau social Truth Social assure qu'Israël va retirer ses troupes jusqu'à une ligne prévue par l'accord. Le Qatar, pays médiateur, a confirmé lui aussi la conclusion de cet accord. Le Hamas annonce de son côté être parvenu à un accord prévoyant la fin de la guerre à Gaza et appelle Trump à contraindre Israël à appliquer intégralement cet accord. Dans la foulée, Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il allait réunir le gouvernement pour approuver ce plan.
Et en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a mené des pourparlers pour sortir le pays de l'impasse politique, pourparlers fixés par le président Emmanuel Macron. À l'issue des négociations, il a déclaré que la situation permet au président de nommer un Premier ministre dans les heures qui viennent.
Au fond, ce soir, ce que je peux dire, après mes consultations, c'est qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution, une nouvelle dissolution. Et pas que parce qu'il y aurait la peur de retourner aux urnes, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, peut-être vrai chez certains, mais c'est surtout parce que beaucoup de personnalités politiques, connaissant leur terrain, leur circonscription, voient bien au fond qu'une dissolution amènerait au même résultat et à une fuite en avant vers un blocage qui pourrait être davantage définitif. Et de cette majorité absolue qui refuse la dissolution, au fond, on a après plusieurs sous-blocs. On a une majorité très relative, de plusieurs formations politiques qui, au fond, sont prêts à s'accorder sur un budget commun. Des formations politiques de l'opposition, notamment de gauche, qui, au fond, veulent aussi cette stabilité, veulent un budget pour la France et pour la sécurité sociale avant la fin de l'année, mais ils mettent des conditions. Et ce que je peux donc vous dire, c'est que je sens qu'un chemin est possible encore, il est difficile, et j'ai dit au président de la République que les perspectives de dissolution s'éloignaient et que je pense que la situation permet pour le président de nommer un premier ministre dans les 48 prochaines heures.
Et maintenant, l'analyse de Valérie Gasse pour Radio France Internationale.
Il y a un chemin, c'est une nouvelle fois le constat de Sébastien Lecornu. Après 48 heures d'ultime tractation avec les partis politiques qui sont venus le voir à Matignon, hors donc LFI et l'ERN, le Premier ministre démissionnaire a tiré une première conclusion.
Au fond, ce soir, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution.
C'est bien tout l'enjeu du moment pour Emmanuel Macron, savoir s'il peut échapper à cette solution jugée la pire et la plus dangereuse pour sortir de la crise actuelle. Mais il faudra des compromis pour que la France puisse avoir un budget avant le 31 décembre et maintiennent l'objectif de réduire les déficits dès l'année prochaine.
Pour la crédibilité de la France, pour les taux d'intérêt, ça a été dit, il n'y a pas de schéma dans lequel on n'est pas à moins de 5%.
Sans annoncer une suspension de la réforme des retraites évoquée par Elisabeth Borne, Sébastien Lecornu a toutefois concédé une avancée vers la gauche.
Je l'ai dit au président de la République, il faudra trouver un chemin pour que le débat ait lieu sur la réforme des retraites.
Il semble donc que l'on s'achemine vers la nomination d'un nouveau Premier ministre sous 48 heures, a dit Sébastien Lecornu. Sera-t-il renommé dans ses fonctions ?
Ce soir, ma mission est terminée.
Un Premier ministre de gauche peut-il être choisi ? Cette décision revient à Emmanuel Macron. Seule préconisation du Premier ministre démissionnaire, que la prochaine équipe gouvernementale soit déconnectée des ambitions présidentielles.
Le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, indique que plus de 200 établissements de santé dans l'est du Congo, en proie à la guerre, sont à court de médicaments en raison des pillages et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement lors des combats de cette année. Ce constat fait partie d'une enquête menée le mois dernier auprès de 240 centres de santé et cliniques des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il s'agit de la plus vaste évaluation de ce type menée par le CICR depuis l'avancée du groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda qui a intensifié les combats dans la région. Près de 9 établissements sur 10 étaient totalement à court de médicaments. Le Rwanda nie depuis longtemps soutenir le M23 et affirme que ses forces agissent en état de légitime défense. Cependant, les experts des Nations Unies ont réfuté ces allégations dans un rapport de juillet, affirmant que le Rwanda exerce un commandement et un contrôle sur les rebelles. En Australie, le ministère de l'Intérieur a confirmé que 2 enfants de femmes australiennes rentrées de Syrie ont obtenu la nationalité australienne. Les 2 femmes et leurs 4 enfants seraient arrivés en Australie le 26 septembre dernier après avoir passé 6 ans dans un camp de déplacés internes suite à la chute du groupe autoproclamé État islamique en 2019. Les femmes sont souvent qualifiées d'épouses de Daesh en raison de leurs liens réels ou supposés avec des militants du groupe. Lors de l'examen des prévisions budgétaires du Sénat, le sénateur libéral James Patterson a demandé à la secrétaire du ministère de l'Intérieur, Stephanie Foster, de confirmer que les 2 autres enfants détiennent également la nationalité australienne.
In relation to the cohort that we're discussing, we processed 2 applications.
Okay. So it's been confirmed that there's 4 children. There are only 2 applications for citizenship by descent. Does that mean that the other 2 children were Australian citizens already?
It does, Senator.
Le ministère de l'Intérieur a détaillé ses récents efforts pour contrer les tentatives ciblées des gouvernements étrangers visant à intimider et à harceler les membres des diasporas en Australie. Le ministère a confirmé avoir mené 26 actions communautaires entre février et août afin de lutter contre ces tentatives d'intimidation, de réduction au silence ou de préjudice envers les migrants, des actes qualifiés de répression transnationale. Lors de la présentation des prévisions budgétaires au Sénat, le sénateur des Verts, David Shoebridge, a demandé à Amy Hanford, responsable de la sécurité nationale au ministère de l'Intérieur, quelles communautés étaient les plus touchées. Hamish Hanford a également confirmé avoir connaissance de plusieurs cas de répression transnationale à l'encontre de la communauté pakistanaise d'Australie.
And which communities are feeling most vulnerable at the moment? Even if it's just indicated by the number of reports?
Well, I can tell you that our officers have engaged with Chinese-Australian communities on 10 occasions, with Iranian-Australian communities on 2 occasions within that time period, Indian-Australian communities on 4 occasions, Cambodian-Australian communities on 1 occasion, and Eritrean-Australian communities on 3 occasions. But that's not then confirming that that's the priority list. That's just a matter of fact in terms of who we've engaged.
La Chambre des représentants a adopté le projet de loi triple zéro présenté suite à deux pannes critiques de Optus en septembre, dont l'une a causé 4 décès. L'objectif est de créer un gardien permanent, triple zero custodian, pour surveiller et réagir en temps réel aux pannes, d'imposer des obligations de rapport plus strictes aux fournisseurs de télécommunications et de renforcer la confiance du public dans le numéro d'urgence national. Le nouveau projet de loi attend maintenant l'approbation du Sénat et une fois adopté, il désignera un responsable au sein de l'autorité australienne des communications et des médias. L'opposition a tenté d'apporter des amendements au projet de loi, mais sans succès, celui-ci ayant obtenu le soutien de la majorité, notamment des Verts. Cependant, Sarah Hanson-Young, porte-parole des Verts pour la communication, affirme que si les Verts accueillent favorablement le projet de loi, des sanctions plus sévères doivent être envisagées pour Optus.
We need to have Optus now in front of a Senate committee to answer a bunch of these questions, so that we can get to the bottom of what really happened and make sure we can put in place a system that is properly regulated and puts people's safety first. We need better regulation, stronger regulation, stronger penalties and a watchdog with teeth.
Le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, a déclaré qu'un partenariat renforcé entre l'Australie et Singapour favoriserait une collaboration accrue dans les domaines du cyberspace et de l'intelligence artificielle. Lawrence Wong a rejoint son homologue australien Anthony Albanese à Canberra pour présenter en détail le partenariat renforcé entre les deux pays dans les domaines de la défense, des technologies et de l'économie verte. Il a déclaré que l'Australie et Singapour partagent une perspective stratégique commune.
Singapore will continue to support Australia's efforts to deepen its engagement with Southeast Asia. And we will cooperate under a new third country training program to deliver capacity building programs for Southeast Asian countries, including what will soon be ASEAN's newest member, Timor-Leste. All in all, we have a full and ambitious agenda ahead of us.
Israël a expulsé 7 Australiens qui faisaient partie d'une flottille d'aide internationale en route vers Gaza. La flottille a été interceptée dans les eaux internationales par l'armée israélienne la semaine dernière. Le personnel consulaire australien en Jordanie aide les Australiens à rentrer chez eux. Julie Webb Pullman a déclaré sur SBS se réjouir de la libération de sa fille, Dr. Bianca Webb Pullman.
I was just so relieved. I was very concerned about what sort of condition they might be in, having not eaten. She'd been on a hunger strike along with many of them. The water that they had access to was contaminated. So she was, you know, nauseous and sick and all that sort of thing. She says she's fine. I think they're just all so glad to be out.
Les habitants du Victoria pourront utiliser gratuitement les transports en commun dans l'État chaque week-end en décembre et en janvier. La première, Jacinta Allen, a déclaré que cette mesure visait à remercier les usagers des transports en commun pour les perturbations subies suite à la construction du métro. Elle a déclaré sur Channel 9 qu'elle espérait que les usagers feraient bon usage du projet de métro de 9 km qui relie South Kensington au nord de Melbourne à South Yarra au sud-est de Melbourne.
We're delivering free public transport for everyone every weekend, everywhere in our state, from the opening of the Metro Tunnel in early December through to the 1st of February when we integrate this amazing piece of infrastructure. This is how you do it, to get a smooth, safe start, to get passengers using this infrastructure at the earliest opportunity.
Et on passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 21 degrés. Adélaïde, 20. Melbourne, 21. Hobart, 16. Canberra, 20. Sydney 30, Brisbane 30 également, Darwin 35 et à Alice Springs maximale de 35 degrés. Fin du journal et merci à vous de l'avoir suivi. Minutes sur les ondes de Radio SBS et on passe au journal des sports et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet.
Journal des sports, on débute avec du football et le point sur les qualifications pour la Coupe du Monde qui aura lieu, je vous le rappelle, l'année prochaine. Ce sera au Canada, au Mexique et aux États-Unis, cette Coupe du Monde qui sera également en intégralité et gratuitement sur SBS à la télévision, votre chaîne historique du football. Alors, ces qualifications pour la zone Afrique, eh bien, on fait le point avec Eric Mamrut et Sylvie Berruet et on commence avec l'Égypte.
L'Égypte est en effet la troisième équipe africaine qualifiée pour le mondial après le Maroc et la Tunisie. Très logiquement, les pharaons de Mohamed Salah ont dominé Djibouti 3-0 à Casablanca pour s'assurer la première place du groupe A. Malgré sa victoire en Sierra Leone 1-0, le Burkina Faso devra se contenter de la deuxième place finale.
Oui, mais pour le Cap Vert, en revanche, la qualification devra attendre un peu.
Les requins bleus ont cru l'avoir en main lorsqu'ils ont marqué à 2 minutes de la fin le but du 4-3 face à la Libye à Benghazi. Ils ont hélas déchanté en voyant l'arbitre annuler ce but pour un hors-jeu imaginaire. Ce nul de 3 partout leur permet néanmoins de conserver la tête du groupe D avec 2 longueurs d'avance sur le Cameroun. Les Lions indomptables qui devaient dans le même temps s'imposer à Maurice pour conserver un mince espoir de qualification. Mission accomplie grâce à 2 buts inscrits en deuxième période. Un succès 2-0 qui satisfait le gardien camerounais André Onana au micro de Joël Wadem.
Nous sommes venus ici pour gagner, c'était important pour nous de gagner ce match et c'est ce qui a été fait, je suis content du travail du groupe. On a joué un match qui était difficile, on a joué contre une équipe qui a joué bloc bas, on a joué sur un terrain synthétique qui était sec, ça a été pas facile pour nous de dérouler notre jeu, mais nous l'avons fait, nous avons gagné et maintenant on pense au prochain match, on pense à l'équipe de l'Angola qui est une très bonne équipe qui va nous mettre ce qui est celui qui vont nous mettre les choses bien dures. On va donner le meilleur de nous, on espère se qualifier.
L'Angola accrochée, Eswatini 2 buts partout, est déjà éliminée que le Cameroun recevra lundi à Yaoundé. Une victoire et les Lions seraient qualifiés si et seulement si dans le même temps le Cap Vert ne parvenait pas à battre Eswatini à Praia, compliqué à imaginer. Sinon, pour les Camerounais, il leur faudra espérer terminer parmi les 4 meilleurs deuxièmes, ceci pour participer au barrage.
Et pour le Ghana éricain, le mondial est en vue.
Vainqueur à El Jadida de la Centrafrique 5-0, les Black Stars conservent 3 points d'avance sur Madagascar une journée de la fin. Les Malgaches, certes vainqueurs des Comores à Abidjan 2-1, mais qui possède une différence de but très inférieure à celle des Ghanéens. Tout proche donc de vivre la 5e phase finale de Coupe du Monde de leur histoire. C'est terminé en revanche pour le Mali. Malgré sa victoire à N'Djamena face au Tchad 2-0 grâce à un doublé de Kamori Doumbia, les Aigles restent à 4 longueurs de Madagascar et ne pourront donc pas décrocher la 2e place du groupe.
Voilà donc pour la zone Afrique, donc de ces qualifications. À noter également, eh bien, un tout nouveau gardien pour l'Algérie. Et ce nouveau gardien, eh bien, il a un nom de famille très particulier. Il s'appelle Zidane, Lucas Zidane. C'est le 2e fils de Zinedine Zidane. Il a fait le choix de jouer donc pour l'Algérie, le pays de ses grands-parents. Et écoutez-le, il y a comme un air de ressemblance quand même.
On espère pouvoir gagner le prochain match pour une qualification pour la Coupe du Monde. C'est un match important et Et on espère que le peuple algérien est derrière nous.
Voilà, Lucas Zidane, le nouveau gardien pour l'Algérie qui affrontera la Somalie. Somalie dernière du groupe, donc de très fortes possibilités d'une victoire de l'Algérie avec dans ses buts Lucas Zidane. On parle également de football, mais en France. La France jouera l'Azerbaïdjan en vendredi. Ce sera également un match de qualification pour cette Coupe du Monde de l'année prochaine. Et Didier Deschamps a fait quelques choix. Tout d'abord, Jean-Philippe Mateta, tout jeune sélectionné, première sélection chez les Bleus, on l'écoute.
Non, moi j'étais en Pologne et j'ai suivi le coach pour gérer la sélection. Et mon nom est apparu et j'étais très content. J'étais avec Maxence Lacroix et on a célébré comme il fallait. Bien sûr, ma famille, ils m'ont contacté et plein de bons mondes que j'ai oublié. Je dois encore répondre au message.
Jean-Philippe Mateta, tout timide. Hein. Apparemment, il est très relax dans la vie courante, dans les vestiaires, mais devant les caméras, eh bien, il a encore beaucoup de timidité. On écoute Didier Deschamps également sur bien la fratrie, puisqu'il y a deux groupes de frères dans l'équipe de France. Il y a les frères Hernandez et les frères Thuram. On écoute Didier Deschamps.
Il s'appelle frérot, mais eux, c'est des vrais frérots.
non, après, qu'il y ait une affinité, oui, et un lien familial... Mais après, bon, je les suis pas systématiquement dans la vie de groupe. Quand ils sont dans leur chambre, ils sont pas forcément à côté dans le vestiaire non plus. Évidemment, ils ont ce lien de famille qui est fort. Tant mieux pour eux. C'est leur papa, leur maman, les parents qui doivent avoir une énorme fierté. Donc moi, j'adapte pas de gestion particulière, même si je peux plaisanter des fois avec les qualités de l'un par rapport à son frangin. Et c'est pas forcément le même caractère pour les deux fratries d'ailleurs, quoi. Donc ni personnalité. Donc ils ont cette particularité là qui est rare, qui remonte, comme vous l'avez dit, la dernière a très très longtemps. Donc moi je considère que sur le plan humain, c'est pas un critère de sélection, il manquerait plus que ça soit ça, mais c'est plutôt sur le plan humain quelque chose de très positif.
Et voilà, donc Didier Deschamps, le match donc contre l'Azerbaïdjan, ce sera demain vendredi et un autre match lundi donc pour les qualifications de cette Coupe du Monde 2026. Et c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
h 45 sur les ondes de radio SBS.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Marie-Hélène Prédhomme, qui est la directrice de l'Alliance française de Melbourne, dans les studios de Radio SBS. Bonjour à vous, Marie-Hélène.
Bonjour Jean-Noël, ça fait plaisir de vous retrouver.
Et on va faire le point sur les événements culturels à venir chez vous dans le French Hub de Bourke Street, les nouveaux locaux de l'Alliance française de Melbourne. On va commencer peut-être par ce nouveau projet de Microfolie.
Oui, effectivement, la semaine dernière, nous avons enfin ouvert la Microfolie de l'Alliance française de Melbourne, qui est donc la deuxième en Australie, parce que Brisbane avait ouvert une Microfolie il y a de cela presque 2 ans, il me semble, en partenariat avec le QT. Donc là, nous, la Microfolie est vraiment implantée dans l'Alliance et a été soutenue évidemment par l'ambassade de France qui nous a aidé avec une partie de subvention et puis avec Grandet Expérience aussi, qui est la maison mère du Loom, ouais, qui avait plein de projecteurs partout. Donc on est vraiment dans un musée numérique. La Microfolie, c'est ça en fait, c'est un musée numérique, entre autres, principalement, qui regroupe des milliers d'œuvres, alors en différentes collections évidemment, en partenariat avec des musées nationaux et régionaux, et maintenant certains internationaux, mais les musées nationaux et régionaux de France, et maintenant il y a certains partenariats avec d'autres musées. Et donc ça permet en fait d'amener la culture et les musées ou certaines parties de ces musées là où on ne peut pas aller si facilement. Donc vous pouvez venir à l'Alliance de Melbourne et faire des visites à thème sur certains sujets. Là on a ouvert avec une expo sur la mode parce que il y a aussi plusieurs événements qui vont se passer autour de la mode à Melbourne dans les prochaines
semaine, mois,
effectivement, avec la Fashion Week, avec une expo qui va ouvrir à la NGV. Voilà, donc on fait
pour
écho
les Winter
à
Masterpieces de l'année prochaine.
Entre autres aussi, ouais. Mais même avant ça, il y aura une plus petite expo Dior au troisième étage. Donc voilà, mode française aussi.
C'est ouvert au grand public ou juste pour les membres de l'Alliance française?
La Microfolie, non, c'est ouvert au grand public. On est vraiment dans une idée de démocratisation de la culture, la culture à la française, ouais. On aime bien le faire. C'est ouvert au grand public. Les gens peuvent venir du lundi au vendredi à l'Alliance entre 9h et 14h. Et 17h-18h30, voilà, on a deux principaux créneaux. Tous les jours, la Microfolie est là, en route, prête à vous accueillir. Vous pouvez rester un quart d'heure, qui est le minimum de la durée de la visite, entre guillemets. Et vous pouvez rester une heure si vous voulez approfondir et lire toutes les étiquettes, si on peut dire... Comme ça, voilà, c'est un écran qui défile devant vous, qui montre les différentes pièces sélectionnées. Et vous avez une tablette qui permet de prendre un peu le large et de s'autonomiser dans la visite.
On enchaîne avec les événements qui viennent en ce mois d'octobre, avec la soirée sur le vin, dégustation de vin avec Dominique Porté.
Oui, bah effectivement. Alors en fait, on a ça, on a cette soirée rencontre avec Dominique Porté et découverte jeudi soir, qui est sold out pour maintenant. Donc on en parle, on est ravis de faire cette coopération et de avec Dominique et de reprendre justement les activités avec lui comme avec d'autres partenaires, et on est aussi ravis que effectivement ce soit sold out, que complet si on peut mieux parler, et puis on a une petite liste d'attente, mais effectivement là on pourra plus prendre de réservation.
Et ensuite, on enchaîne avec le vendredi 10 octobre, c'est la projection d'un documentaire, Cathy at War, c'est sur la photojournaliste Catherine Leroy.
Voilà, oui, c'est ça. Donc là, c'est un événement principalement en partenariat en fait avec la Photo Biennale de Ballarat, soutenue par l'ambassade de France. Donc l'ambassade s'est impliquée dans le lancement d'un livre qui aura lieu samedi matin à Ballarat sur place. Et donc ils organisent aussi un événement délocalisé de la Biennale à Melbourne. Voilà, donc c'est bien parce que pour une fois, c'est pas Melbourne qui délocalise ailleurs, c'est Ballarat qui délocalise à Melbourne.
Et donc le livre, c'est Catherine Leroy, One Way Ticket to Vietnam,
voilà.
1966-1968.
Ouais, c'est apparemment, enfin voilà, une grande photographe, reporter de guerre. Personnellement, je ne connais pas beaucoup de sa vie, etc. Donc je suis curieuse vendredi soir et samedi matin de pouvoir mieux connaître à l'Alliance et à la photo de Ballarat. Cet événement est pour le moment aussi en liste d'attente sur l'Alliance.
C'est sold out.
C'est complet pour le moment. Il y a déjà un début de liste d'attente, donc on espère pouvoir accueillir d'autres personnes, mais ça veut dire qu'il y a des désistements.
Je peux diriger les gens sur notre site de SBS French, car j'ai eu l'occasion d'interviewer Robert Pledge de la dotation Catherine Leroy.
Génial.
Il est franco-britannique et il habite, je crois, à New York, aux États-Unis. Et j'ai eu l'occasion de l'interviewer sur cette exposition de Catherine Leroy à Ballarat.
Oui, et il semble me rappeler que la semaine dernière, ou il y a peut-être deux semaines. Enfin, il n'y a pas très longtemps, pareil, vous m'avez donné le lien. On a mis ça en un lien en complément aussi de l'information sur cet événement. Donc oui, mettez-le bien, on pourra repartager.
Et on passe au titre du journal de ce jeudi. Le président américain a annoncé qu'Israël et le Hamas ont approuvé la première phase de son plan de paix. En France, le premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, a mené des pourparlers pour sortir le pays de l'impasse politique, pourparlers fixés par le président Emmanuel Macron. Et à l'issue des négociations, il a déclaré que la situation permet au président de nommer un premier ministre dans les heures qui viennent. En Australie, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi 000. Présenté suite à deux pannes critiques de Optus en septembre dernier, dont l'une a causé 4 décès. L'objectif est de créer un gardien permanent, 000 Custodian, pour surveiller et réagir en temps réel aux pannes, d'imposer des obligations de rapport plus strictes aux fournisseurs de télécommunications et de renforcer la confiance du public dans le numéro d'urgence national. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Belle journée. À bientôt pour SBS en français.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.